Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 7 décembre 1914, la bataille navale des Falklands. Le 2 novembre 1914, au large des côtes chiliennes, l'escadre de l'amiral allemand Maximilian von Spee coule le cuirassé anglais Good Hope et le croiseur Monmouth. Le désastre de Coronel, un port situé non loin de Concepción, au Chili, fait 1200 victimes britanniques. Un mois plus tard, le 7 décembre, les Anglais vengent cette défaite par la bataille des Falklands. Winston Churchill, premier lord de l'amirauté, ne peut tolérer l'affront infligé par la marine allemande. Il nomme l'amiral Doventon Sturdee commandant d'une flotte destinée à l'Amérique du Sud. Elle comprend les croiseurs Invincible et Inflexible, tout juste sortis des réparations à Davenport. Ces deux bâtiments de guerre de 17 250 tonnes sont armés de 8 canons de 305 mm et de 16 canons de 102 mm. Leur vitesse est de 26 nœuds. Seule leur protection cuirassée est faible. L'escadre de l'amiral Sturdee est également composée du cuirassier Carnarvon, datant de 1903, et des deux croiseurs Kent et Cornwall. Au matin du 7 décembre 1914, l'amiral von Spee approche des îles Falkland. Il désigne deux navires, le Gneisenau et le Nürnberg, pour préparer un débarquement sur la pointe de Pembroke, à l'entrée de Port Stanley. Leur premier objectif est la destruction des installations de TSF. Il est 9h20 lorsque les Allemands aperçoivent un croiseur qui appareille le cap vers la sortie du port. Le Gneisenau et le Nürnberg décident de lui régler son compte avant que les autres bâtiments anglais n'entrent en ligne. À 9h25, au le moment où le Gneisenau s'apprête à ouvrir le feu, deux gros projectiles tombent à 800 yards, soit approximativement 730 mètres en arrière. Ils soulèvent des gerbes d'eau d'environ 45 mètres de hauteur. Deuxième salve. Cette fois, les projectiles anglais tombent plus près encore. Curieusement, l'un d'eux ricoche sur l'eau et passe au-dessus de la plage en arrière du Gneisenau. Ce qui impressionne l'équipage, c'est le croiseur Canapus, chargé de la protection des Falklands, qui a ouvert le feu. La veille, sont arrivés en rade de Port Stanley les croiseurs Invincible, Inflexible, Glasgow, Kent, Bristol, Carnarvon et Cornwall, et le croiseur auxiliaire Macedonia. Humphrey Packington, futur Lord Hampton, alors enseigne de vaisseau à bord du Carnarvon, relate la bataille. Nous sortions d'un trou dans la terre, comme des guêpes de leur nid. La flotte était à la mer et la chasse était ouverte et c'était vraiment un beau matin de chasse. À pleine vitesse, nous marchions labourant la mer bleue. À 13h30, les croiseurs légers ennemis se séparèrent des deux croiseurs lourds et filèrent vers le sud. Von Spee avait décidé de se sacrifier pour protéger leur fuite. Le Glasgow, le Kent, le Cornwall se lancèrent à leur poursuite. Bientôt, on ne vit à l'horizon que le haut de leur mât. Maintenant, le Shamhurst et le Gneisenau avaient ouvert le feu et leurs canons battaient l'eau avec fureur autour de nos croiseurs de bataille. Sturdee s'éloigna pour augmenter la distance et garder ainsi l'avantage de son artillerie lourde. Nos croiseurs de bataille entrèrent en action avec leurs canons de 305 mm. Le Scharnhorst avait disparu à jamais de la surface des flots à 16h20, entraînant dans la mort l'amiral von Spee et la quasi-totalité de ses officiers et de son équipage. Le Gneisenau coula à 18h02. Les croiseurs allemands en fuite s'égayaient. Le Leipzig et le Nürnberg restaient franchement en arrière, le Dresden loin devant. Le Cornwall se lançait à la poursuite du Leipzig, qui voyait rapidement s'évanouir toute chance de s'échapper. Le combat s'engagea d'abord à une grande distance. L'Allemand ripostait courageusement aux salves de projectiles anglais qui, à partir de 16h15, éclatèrent à son bord. Le Cornwall était lui-même durement touché, mais la supériorité anglaise était impressionnante. Pendant deux longues heures, les projectiles anglais ravagèrent le pont, les superstructures, les cheminées du Leipzig. À 21h22, après un combat qui avait duré plus de 5 heures, dont les deux dernières avaient été atroces, le Leipzig en flammes coulait pavillon haut. La température de l'eau était de 5 degrés. Quoique les Anglais, le combat terminé, eussent mis quelques canots à la mer, il n'y eut que peu de survivants. Le Nürnberg, poursuivi par le Kent, engagea un combat singulier avec le croiseur anglais. Sous le tir précis des canons du Kent, le Nürnberg ne fut bientôt qu'une masse qui brûlait. À 19h25, le Nürnberg s'inclinait doucement. On vit alors, à la lueur des incendies, un groupe de marins allemands debout sur le flanc déchiré du Nürnberg qui brandissait fièrement le pavillon de guerre de la marine allemande. Et le Nürnberg disparut. Un seul croiseur allemand, le Dresden, put s'échapper. Il alla se réfugier dans le labyrinthe des fjords désolés qui vont du Cap Horn à la sortie du détroit de Magellan sur le Pacifique. Les Allemands avaient perdu 2260 hommes au Falkland, dont l'amiral von Spee et ses deux fils. Nous allons dans un instant découvrir la chronique littéraire, un livre, un jour trois livres préparés par Emmanuel, mais ce sera après une pause musicale. C'est Charles Aznavour qui nous accompagne en chanson durant cette émission. Nous allons écouter l'un de ses plus grands succès, c'était en 1966, La Bohème.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, souvent il m'arrivait devant mon chevalet, le passé des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, la bohème. Ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème. Et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème,
écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire préparée par Emmanuel et que j'ai plaisir à vous présenter. Ce ne sont pas trois, mais quatre livres aujourd'hui, avec pour commencer La Cité de la Victoire, c'est le dernier roman de Salman Rushdie, publié aux éditions Actes Sud. Dans le sud de l'Italie, au XIVe siècle, à la suite d'une énième bataille, une fillette de 9 ans fait une rencontre divine. Après avoir assisté à la mort de sa mère, la petite Pampa Campana, accablée de chagrin, devient le véhicule d'une déesse qui se met à parler par la bouche de l'orpheline, l'objectif étant de faire des femmes les égales de l'homme. En lui accordant des pouvoirs qui dépassent l'entendement de Pampa Campana, la déesse lui annonce qu'elle contribuera à l'essor d'une grande ville appelée Bisnaga, littéralement cité de la victoire, la merveille du monde. Au cours des 250 années suivantes, la vie de Pampa Campana se confond avec celle de Bisnaga, depuis sa création à partir d'un sac de graines magiques jusqu'à sa chute tragique de la manière la plus humaine qui soit, l'hubris de ceux qui détiennent le pouvoir. La Cité de la Victoire de Salman Rushdie s'est publiée aux éditions Actes Sud. Écho de psaume de Raphaël Sadin aux éditions du Cerf. Voici 150 poèmes en écho contemporain au psaume. Une invitation à redécouvrir le sublime de la voix biblique et à écouter sa musique. Dans la perspective juive traditionnelle, le livre des psaumes revêt une place prépondérante. Attribué pour l'essentiel, selon le Talmud, au roi David, les psaumes constituent un texte unique dans l'Ancien Testament. Ils ne sont pas le grand récit de la révélation, ni le verbe prophétique dévoilant l'ultime de l'histoire, ni une déclinaison de la sagesse absolue. Ils sont tout cela à la fois. Ils sont surtout le chant d'une âme assoiffée de Dieu. Voici donc un lien magique entre notre monde et celui du roi David. Écho de psaume de Raphaël Sadin s'est publié aux éditions du Cerf. Un espion en Canaan de David Park aux éditions de la Table Ronde. En 1973, Michael Miller, jeune diplomate timide, se retrouve en poste à Saïgon alors que les États-Unis s'apprêtent à quitter le Vietnam. Travaillant comme gratte-papier dans une des multiples agences de renseignement présentes dans une ville sur le point de tomber aux mains des Vietcong, Il donne l'impression d'évoluer dans une dimension parallèle, loin de la panique et de la violence ambiante. Jusqu'au moment où Ignatius Donovan le recrute officieusement pour le compte de la CIA. 40 ans plus tard, Michael, devenu veuf, peu de temps après avoir pris sa retraite, vit dans une maison trop grande pour lui, au bord de l'Atlantique. S'il replonge dans ses souvenirs, c'est qu'il va devoir, au nom du passé, accomplir pour Donovan une dernière mission, quelque part sur la frontière mexicaine. Un roman d'espionnage passionnant où se mêlent les blessures intimes et les désordres géopolitiques. Un espion en Canaan, c'est signé David Mark et c'est publié aux éditions de la Table Ronde. Et nous terminons cette chronique par un ouvrage d'Aurélien Cresselli, publié aux éditions Gallimard, « Par-delà l'oubli ». Le 12 décembre 1941, René Blum est arrêté à son domicile parisien avec le concours de la police française au cours d'une vaste rafle de notables de confession juive. Il est déplacé des camps d'internement français à celui d'Auschwitz, où il perd la vie. Frère cadet de Léon Blum, René est un homme au service des arts. Tour à tour journaliste et critique à la Revue Blanche et à Gil Blas, il fut aussi directeur artistique de Casino et du théâtre de Monte-Carlo. Il fréquenta aussi bien les écrivains que les peintres et les musiciens avant-gardistes. Un humaniste particulièrement courageux, dont les circonstances de son assassinat restent aujourd'hui incertaines. Par-delà l'oubli, c'est signé Aurélien Cresselli et c'est publié aux éditions Gallimard. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisé. Et c'est en chanson que nous allons nous séparer, toujours avec Charles Aznavour. Nous écoutons un titre de 1975, Hier encore.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon, pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent, mes 20 ans? Oh,
We'll be right back.